On accueille ce soir dans Postface Pierre-Henri Gaumont. Pierre-Olivier a chroniqué Slava qu'il a beaucoup aimé. Bonsoir Pierre-Henri.
Bonsoir.
On est ravis de vous recevoir. Alors, un an après l'apparition du premier tome des aventures éponymes du jeune Slava, on vient de lire, nous, à Postface, le deuxième tome, le tome 2, Les Nouveaux Russes, qu'on a beaucoup aimé. On retrouve les personnages qu'on a aimés, Slava, Lavrine et puis Nina, bien sûr, dans des nouvelles aventures. Il s'agit désormais de sauver une mine et un village des prédateurs qui la convoitent. Alors, on se retrouve toujours en Russie dans les années 1990. D'où vous vient cette fascination pour cette période? Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter une histoire qui se déroulerait voilà, dans cette Russie en transition, dans cette période post-soviétique?
La première chose, c'est que c'est tout un monde qui nous a été fermé pendant très longtemps et que j'ai pu découvrir au gré de voyages que j'ai faits à l'époque en bicyclette. Et j'ai pas mal louvoyé dans les pays qui ont appartenu au sens large au bloc communiste, que ce soit en Europe centrale ou carrément en ex-URSS. Et en fait, tout simplement, tout ce que j'avais entendu sur ce monde-là et sur la transition qui était en train de s'opérer me paraissait très peu vérifié dans les faits avec les gens que je rencontrais. Et c'était une assez grande surprise pour moi. J'ai d'ailleurs mis pas mal de temps hein, à le comprendre et à l'appréhender. Et puis par ailleurs, c'est vrai que il passe d'un monde communiste à un monde extrêmement libéral et extrêmement brutal, parce que tout ça a été organisé par les Harvard Boys hein, qui sont venus conseiller le gouvernement d'Eltsine à l'époque. Et en fait, c'était une espèce de prisme aussi pour regarder ce qui se passait chez nous, parce que ils vivent en 10 ans ce que nous on a mis un siècle à construire, ou même un peu plus. Et ça fait apparaître les choses de façon très violente, très brutale, et c'est à ce titre-là que ça m'intéressait.
Oui, de raconter une histoire. Alors vous avez dit que vous avez rencontré des gens voilà, qui vivaient les choses un peu différemment. On reparlera un peu du récit, mais c'est vrai qu'il m'a semblé qu'il y avait quelque chose de très fort dans la construction de votre bande dessinée, c'est les personnages. C'est-à-dire qu'on sent que vous les avez construits, vous les avez travaillés, vous leur avez donné chair. Alors tant par le trait que par le texte, hein, parfois j'avais l'impression d'être chez Ahmed comme ça, où en quelques lignes on dépeint un personnage tant par son physique que par ce que son âme peut traduire. Est-ce que ce récit, du coup, il n'est pas parti des gens et des personnages?
Mais en ce qui me concerne, chaque récit part toujours des personnages. C'est par là que ça démarre, et parce que tout simplement ça démarre par le dessin. Et ça démarre par des gens que je dessine. Alors parfois ce sont des gens que je rencontre, parfois ce sont des gens que j'imagine, mais en l'occurrence dans cette histoire-là, c'est beaucoup des gens que j'ai rencontrés et que j'ai adaptés en fait. Parce qu'il y a dedans, il y a des gens que j'ai vus qui étaient au cours de mes voyages, mais il y a aussi des gens que j'ai rencontrés en France et où je me disais, tiens, ce serait intéressant de les mettre dans cette situation-là. C'est le cas par exemple de Lavrine, qui incarne comme ça le... espèce de volonté du tout mercantile, et lui il n'était pas lui c'était un type avec qui j'avais travaillé et puis mais qui me faisait beaucoup rire. Je me disais que dans ce monde là il pouvait s'épanouir, disons, et ça m'amusait. Et donc c'est toujours une question de personnage. Le personnage de Volodia est quelqu'un que j'avais rencontré en Biélorussie, sa fille s'appelait Nina, enfin tout ça est quand même assez inspiré de ce que j'ai pu rencontrer, oui.
Ouais, il y a une forme de réalisme. Alors, il y a une forme de réalisme aussi dans les décors. On s'ancre, sans faire de mauvais jeu de mots pour un dessinateur, on s'ancre dans un paysage aussi. Vous avez donc, vous nous l'avez dit, baroudé. C'est vrai qu'on sent aussi cette envie de nous faire voyager dans ces grands espaces. Je pense à la montagne, je pense même à l'usine hein, où il y a des décors qui sont très précis. Ça aussi, c'était une envie que vous aviez?
C'est vrai que ça pour moi ça compte beaucoup, c'est-à-dire que c'est parce que ça fait écho à ma façon de voyager et de visiter, si vous voulez. C'est que je fais toujours ça carnet en main et j'aime infiniment dessiner les paysages, les architectures urbaines et comme vous le savez, l'architecture soviétique, disons, ou communiste même, parce que c'est aussi vrai, par exemple, en Yougoslavie, enfin en ex-Yougoslavie. Ce sont des bâtiments qui sont très graphiques, c'est très très, ça rend très bien, je trouve, en dessin. Ça m'intéresse beaucoup à dessiner. Il y a comme ça une espèce de répétition et de variation constamment dans les bâtiments que je trouve très belles. Et bien sûr, j'avais envie de faire apparaître ça parce qu'il y a un peu l'idée que c'est moche, l'architecture communiste. Et moi, j'ai pas du tout cette impression-là, d'autant plus que, comme on le voit dans le premier tome, il y a des bâtiments qui sont des palais quasiment, hein, qui sont des palais qui sont là pour reconstruire une espèce de liturgie autour du communisme, et c'est souvent des très très beaux bâtiments, et ce sont des choses, ça notamment, que j'ai beaucoup vu en Géorgie et que je mets dans la bande dessinée. C'est vrai que ça fait voyager. Vous savez, un dessinateur, il cherche constamment à dessiner des choses qu'il n'a pas faites avant, et donc les paysages, pour ça, c'est formidable, quoi.
On sent dans ce que vous dites une sorte un peu de choc émotionnel, de rencontre en fait avec à la fois ces paysages, cette architecture, ces personnages que vous avez voulu raconter d'une manière un peu différente, du coup, puisque vous travaillez sur une histoire en 3 tomes. Et un des charmes de la lecture de cette bande dessinée Slava, c'est aussi le rythme que vous donnez. Est-ce que ce rythme, il est induit par le fait que ça se raconte en 3 tomes, c'est-à-dire qu'à la fin, on sait qu'on est sur quelque chose de long cours, et en même temps, il y a quelque chose d'assez rapide, qui nous saisit assez en tant que lecteur. Ça a changé votre façon de travailler, du coup, le fait de choisir les 3 tomes?
En fait, ça s'est passé un peu dans l'autre sens.
Oui.
Parce que mon précédent ouvrage faisait pas loin de 200 pages, et il était sur ce rythme-là. Et je savais que en traitant de cette période-là et de ce monde-là, il me fallait quelque chose de plus vaste. Mais moi, ce que j'aime, c'est la densité, c'est le rythme, c'est le fait que ça aille très vite. Hein, c'est même quelque chose qui est proche de la comédie dans la facture.
Oui, tout à fait, quelque chose de tragicomique, tout à fait.
Voilà, et donc c'est pour ça qu'on a pris la décision avec l'éditeur de le séparer en 3, parce que 300 pages de bande dessinée aussi dense, je pense que à la lecture, ça peut être difficile, quoi. Et le séparer en 3 venait de cette volonté de densité et en même temps, voilà, était induite par la taille de ce pays qui demande de l'ampleur, quoi.
Ouais.
Puis je dois dire qu'il y avait quelque chose d'un peu, comment dire, décevant dans mes précédents ouvrages, c'est-à-dire que au moment où j'avais l'impression que je connaissais bien mes personnages, il fallait que je les abandonne, et cette fois-ci, j'avais envie de passer un peu plus de temps avec eux. Et je dois dire que ça s'est beaucoup vérifié dans la façon de travailler. Ça m'a vraiment beaucoup plu. C'est-à-dire que le fait d'écrire le premier tome puis de le dessiner me donne du recul. Au moment d'écrire le second, je sais que là, voilà, je les ai bien en main, etc. Et là, je vois que je suis en train d'écrire le 3, et c'est encore mieux, en fait. Et donc, c'était un peu un choix qui s'est fait comme ça, sans trop calculer, et j'aime beaucoup beaucoup le format de la série, enfin de la série courte, hein. Je ferai pas des trucs hyper longs, là c'est prévu en 3 tomes, et ça s'arrêtera là, mais dans ma tête, c'est quand même conçu comme une seule grande histoire.
Une seconde histoire. Mais alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que finalement, cette connivence qui s'installe entre nous, lecteurs, et les personnages, hein, qui est vraiment un délice avec Slava, elle existe aussi entre vous et vos personnages. C'est transposé,
oui,
c'est ça.
Parce que je pense qu'on vit un peu la même chose.
Tout à fait.
Je suis mon premier lecteur. J'essaye de faire des choses qui m'amusent, moi, en me disant que si ça m'amuse, moi, il y a des chances que ça amuse les autres. Mais je suis très peu démurge, si vous voulez, avec mes personnages. Je les laisse, ils ont leur voix, ils ont leur vie. Et c'est vrai que plus j'avance, plus, vous voyez, plus les tomes avancent, et plus ils deviennent autonomes. Et donc, l'histoire s'écrit quand même un peu comme ça. Et donc, en ça, on est vraiment au même niveau, vous et moi.
Alors, il y a quelque chose qui a beaucoup intéressé Pierre-Olivier, qui a chroniqué Slava, donc le deuxième tome, Les Nouveaux Russes, dans le début de l'émission. C'est comment vous avez travaillé avec ces bulles où on a du dessin qui raconte quelque chose ou qui dit un état d'esprit ou une pensée d'un des personnages. Comment vous est venue cette idée, en fait ? Donc, de bulles dans lesquelles on n'a pas le texte, on a des dessins, mais ça raconte beaucoup de choses, en fait.
Ça vient de... J'aime beaucoup les récitatifs et j'ai tendance à en mettre pas mal.
Avec une belle écriture, ouais.
Si et il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que c'est trop et que c'est indigeste. Et quand je vois que c'est trop, selon l'adage bien connu, un dessin vaut mieux qu'un long discours, je supprime tout et je le remplace par un dessin. Et moi, ça m'amuse dans la mesure où... Il y a du dessin là où on l'attend pas, c'est-à-dire là où il devrait y avoir du texte. Là où il y a du texte, parfois il y a du dessin. Et vous voyez, les onomatopées, elles sont dessinées en fait.
Oui.
Et finalement, il y a une porosité entre le dessin et l'écriture. Tout est dessin et tout est écriture dans une bande dessinée. Et donc, vous voyez, l'idée de mettre des dessins dans les bulles participe vraiment de ça. Et à mon avis, la bande dessinée, c'est essentiellement ça, quoi. C'est-à-dire la façon dont le texte et le dessin se répondent et puis se mélangent complètement. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime infiniment être le scénariste de mes propres bandes dessinées, parce que ça, je ne l'aurais pas avec quelqu'un d'autre.
Oui.
Il faut être un peu seul aux commandes, mais ça, c'est mon goût personnel.
Oui, ça fonctionne très bien. Et puis finalement, ça élargit les choses. Le dessin ouvre aussi quelque chose de l'imaginaire, peut-être plus que le texte. Alors,
ah ouais, ça c'est sûr que ça ferme davantage et puis qu'on a une façon d'appréhender l'émotion très différente, mais parce que ça passe par un autre sens. C'est même un peu, vous savez, je vais citer des grands noms, mais c'est pas grave. Mais
on est dans une émission littéraire,
Proust,
allez-y.
la façon dont le souvenir revient par l'odorat est quelque chose de très spécifique, c'est-à-dire que ça vous replonge dans un monde en court-circuitant la pensée raisonnée. Et je trouve que le dessin, c'est un peu ça aussi. On peut arriver à des émotions par des biais inattendus.
Ouais. C'est fort bien dit et merci d'avoir cité Proust. On est dans une émission littéraire, hein. Allez-y, faites-vous plaisir. Alors ce récit, il est aussi... Il traite aussi de quelque chose d'assez intéressant, c'est la façon en fait où les valeurs se sont inversées en 1990, voilà, dans l'ère post-soviétique en Russie, avec, comme vous le disiez au début de l'interview, quelque chose de très rapide. Et est-ce que cet ouvrage, il a une dimension politique aussi ?
Bah, évidemment.
Évidemment.
Enfin, comment ne pas avoir une... comment dire, enfin... comment ne pas faire juste le présenter en fait.
Oui, oui, c'est ça. C'est pas forcément passer un message politique, mais
exactement. Ouais,
il y a quelque chose qui vient nous faire réfléchir en fait. C'est ça que j'entendais par politique.
Je veux surtout pas ni que mon livre ni que mes personnages soient des porte-flingues de mes propres opinions.
Tout à fait.
Ça m'intéresse pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime tant le personnage de Lavrine, parce qu'il m'est complètement opposé. Et en même temps, il est sympathique et il fait des horreurs, mais moi, je l'aime quand même beaucoup.
Mmh.
Et évidemment, c'est politique, mais d'une façon, comme l'est toute fiction, en fait.
Bien sûr.
C'est-à-dire, elle propose des choses et c'est une vie en plus qu'on vit en le lisant. Et on se questionne, mais je ne veux pas apporter de réponse, ça pour moi c'est important.
Oui, ouais, j'allais vous rassurer en disant oui, que vos personnages voilà, et leur dualité, en fait, elles servent à un récit qui fait réfléchir, effectivement, et qui n'est pas tout blanc ou tout noir. Alors, bon, vous l'avez compris, nous, ici, on a beaucoup aimé les deux tomes de Slava.
Merci.
On attend avec impatience le tome 3, vous en êtes où, alors, comment ça se passe ? Sans vouloir révéler quoi que ce soit qui pourrait être secret.
Eh bien, écoutez, ça se passe bien. je suis très content de la façon dont ça s'écrit, parce que j'avais prévu au départ une histoire, disons une grande, dans les grandes lignes, j'avais prévu où ça allait, mais quand on écrit, il se passe plein de choses qui viennent, et il y a une dépendance du chemin qui est très grande au moment de l'écriture, et donc j'ai pris des voix inattendues. Alors c'est très bien parce que ça veut dire qu'on est porté par son propre récit, et mais c'est un peu angoissant parce qu'on se demande comment on va retomber sur ses pattes, et il est nécessaire de retomber sur ses pattes. Et au cours du 2, j'ai eu beaucoup de déclics pour l'écriture du 3, et finalement ce 3-là, j'en suis content, je dois dire. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais je vous le dis honnêtement.
Non, en même temps, on est heureux de le savoir.
J'ai l'impression que ça boucle bien, quoi. Et puis que c'est très russe dans l'idée, sans faire sans aller dans le cliché hein, de l'âme russe, mais il y a quelque chose. Il faut que ce soit ample, et parce que ce monde-là, il est immense, et donc il ne faut pas que ce soit rikiki, il ne faut pas que ça patine, et j'espère, enfin j'ai l'impression que ça fonctionne. Je suis en train de finir d'écrire le 3, et je le dessinerai cette année, et il sortira donc dans un an pile, quoi, à la rentrée prochaine. Ouais,
bon, ben alors nous, on est attentifs, on va surveiller ça, on est très heureux de le lire. Merci. Et c'est vrai qu'il y a cette amplitude aussi, on y pense hein, quand on lit Slava, cette amplitude de l'âme russe. Il y a quelque chose quand même de la littérature russe dans la façon dont vous donnez l'amplitude et au personnage et au récit. Merci beaucoup Pierre-Henri Gaumond d'avoir accepté notre invitation dans Postface sur Radio Balistique. Je rappelle que vous publiez la Slava, le deuxième tome, Les Nouveaux Russes chez Dargaud. À bientôt. Au revoir.
Merci, au revoir. À bientôt.